RFI, il est 22h ici à Paris, 20h en temps universel.
Loïc Bussière.
Et c'est l'heure de votre journal en français facile. Zéphirin Quadio est à mes côtés pour vous présenter ce journal. Bonsoir Zéphirin.
Bonsoir Loïc, bonsoir à toutes et à tous.
À la une ce soir, la présidentielle en Tunisie. Les premières tendances donnent les deux candidats anti-système qualifiés pour le second tour. Les chiffres officiels devraient être connus d'ici une demi-heure. Celui de la participation confirme la faible mobilisation. Moins d'un électeur est allé voter ce dimanche.
Présidentielle encore Loïc, hein, mais cette fois en Algérie. On en connaît désormais la date. Le 12 décembre, c'est ce qu'annonce ce soir le président par intérim Abdelkader Ben Salah.
Et puis nous reviendrons également dans ce journal sur ces nouveaux affrontements à Hong Kong, des affrontements en marge d'une manifestation du camp pro-démocratie, manifestation interdite. Les détails dans cette édition.
Les journaux
en français facile.
En français facile.
Tout d'abord, la présidentielle en Tunisie, un scrutin crucial dans ce pays pionnier des printemps arabes de 2011. Les bureaux de vote sont fermés. Pas de résultat officiel pour le moment.
Oui, même si les camps de Nabil Karoui, l'homme d'affaires emprisonné, et celui de l'universitaire Kais Saied affirment être qualifiés pour le second tour, ce que confirment les premières estimations. Ce qui est certain, c'est le chiffre de la participation. À peine plus de 45%, 7 millions de Tunisiens ont tout été appelés aux urnes ce dimanche. Nos envoyés spéciaux Richard Ifono et Binta Diagne sont allés recueillir la parole d'électeurs dans le centre de Tunis et dans le quartier périphérique de Mégrine.
J'attends au président qu'il pense à son pays, aux confins tunisiens, parce que la vie devient très dure et la vie est chère par rapport au peuple.
Beaucoup de respect, que du respect pour la Constitution, et peut-être donner plus de prérogatives au président de la République et accélérer la création des institutions. Les garde-fous de la présidence quand elle sera plus puissante.
Et j'ai pas voté, je n'attends rien, ils sont tous pareils.
On espère bien que le prochain président soutient le peuple tunisien et le rassemble tout le monde. Diminution du taux de chômage, les prix sont très élevés, c'est ça.
Remettre le pays sur le droit chemin, parce que je crois que nous avons perdu beaucoup de temps. Il y a eu beaucoup de désillusions depuis 2011 jusqu'à maintenant. Ben, je crois que ces 8 ans vont nous permettre donc de faire un peu le bilan et puis de faire une mise à jour.
Voilà, les propos recueillis par nos envoyés spéciaux en Tunisie, Richard Ifono et Binta Diagne. Les résultats officiels de ce premier tour de la présidentielle tunisienne devraient être connus d'ici un peu moins d'une demi-heure, aux alentours de 20h30, heure universelle.
Notez par ailleurs, hein, Loïc, en Algérie, la présidentielle, elle, se tiendra le 12 décembre prochain.
Oui, c'est ce qu'annonce ce soir le président par intérim Abdelkader Ben Salah lors d'une intervention à la télévision nationale. Cette date du 12 décembre est conforme au délai qui était réclamé par le chef d'état-major de l'armée, Ahmed Gaïd Salah, qui souhaitait une élection avant la fin de l'année, après la démission en avril dernier d'Abdelaziz Bouteflika, qui dirigeait le pays depuis 1999.
À la une également, ces nouvelles scènes de violence à Hong Kong, où un rassemblement du camp pro-démocratie a dégénéré en affrontement avec les forces de l'ordre.
Ouais, la manifestation n'avait pas été autorisée. Elle a quand même eu lieu avec plusieurs dizaines de milliers de personnes. Une manifestation marquée donc par des tirs de gaz lacrymogène de la part de la police qui répondait à des cocktails Molotov lancés par les manifestants. Des incidents ont eu lieu près des immeubles du gouvernement et du quartier général de l'armée de libération populaire. Reportage sur place de Florence de Changy.
Après quelques heures de confrontation dimanche en fin de journée dans le centre de l'île de Hong Kong, les manifestants avaient réussi à se disperser sans que la police ne parvienne à en arrêter aucun. Des centaines de policiers en tenue anti-émeute ont ensuite paradé dans certaines grandes rues, escortés par les canons à eau et des véhicules blindés, mais sans plus vraiment de manifestants à écarter. À Causeway Bay, cet instituteur suivait tranquillement le cortège des policiers.
Moi, j'étais juste en train de me promener dans les rues et je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais il y a beaucoup de monde, hein, et c'est comme ça toutes les semaines maintenant, tous les dimanches, tous les samedis.
Et quand on lui demande si les Hongkongais continuent de soutenir le mouvement de protestation malgré l'annonce par le gouvernement du retrait du projet de loi controversé, il est affirmatif.
Yes, sure.
Oui, absolument. Jusqu'à présent, je pense que la plupart des gens de Hong Kong sont très favorables et ils continuent de soutenir cette révolution.
Vous appelez cela une révolution ?
Bah oui, un petit peu.
Révolution ou pas, le soutien à ce mouvement reste entier. Florence de Changy, Hong Kong, RFI.
Dans l'actualité également, la réponse de l'Iran aux accusations de Mike Pompeo après les attaques contre des installations pétrolières en Arabie Saoudite.
Oui, pour Mike Pompeo, donc le secrétaire d'État américain, elle porte ces attaques, la marque de Téhéran. Il s'agit d'accusations aveugles et incompréhensibles, affirme de son côté le ministère des Affaires étrangères iranienne, qui laisse entendre que ces déclarations américaines ont pour but de justifier des actions futures contre son pays. Les rebelles yéménites, outils soutenus par l'Iran et qui font face depuis 5 ans à une coalition militaire menée par Riyad, ont revendiqué ces attaques contre les installations pétrolières de la compagnie Aramco.
Il est 22h06 à Madrid, en Espagne. Plus d'un millier de militaires déployés tout le long de la façade méditerranéenne pour aider à lutter contre les inondations causées par la goutte froide qui traverse le pays.
Mais la goutte froide, c'est un terme qui désigne un phénomène météorologique instable. Depuis jeudi, il a fait 6 morts et des centaines de blessés. De nombreuses routes sont par ailleurs coupées dans le sud-est du pays. Sur place, les détails de François Musso.
Ces dernières années, à la fin de l'été, l'Espagne est coutumière des phénomènes météorologiques excessifs, notamment sur la côte méditerranéenne, comme la goutte froide. Mais cette fois-ci, elle revêt un caractère d'exceptionnalité, essentiellement par son intensité. En seulement 3 jours, les ravages sont dantesques, de l'Andalousie jusqu'à la Catalogne. Des localités entières totalement inondées sont isolées et totalement bloquées dues à la force des pluies provoquant les inondations. De très nombreuses artères sont toujours coupées. Jamais en Espagne, pour une telle catastrophe climatique, les 3 corps d'armée n'avaient été mobilisés ensemble, l'armée de terre, l'armée de l'air et la marine, outre 850 membres de l'unité militaire d'urgence. Ceux-ci se sont concentrés sur le repêchage de personnes isolées par les pluies, 27 par hélicoptère et plus de 450 par d'autres moyens. Le roi Philippe VI a personnellement contacté les maires des localités les plus touchées, surtout entre Almeria en Andalousie et Orihuela à Murcie. Quant à la ministre de la Défense Margarita Robles, elle est montée en première ligne pour coordonner le dispositif, indiquant que ce type de phénomène va s'aggraver en intensité et en fréquence. Il faut donc, a-t-elle conclu, s'atteler de plus en plus à la prévention. François Musso, Madrid RFI.
22h08 à Paris, l'heure de retrouver Yvan Amar pour l'expression de la semaine.
Nous sommes bien loin de réaliser les objectifs de l'agenda 2030. C'est RFI qui nous prévient de cela, il y a peut-être de quoi s'inquiéter, mais on peut aussi se poser quelques questions sur cette étrange formulation. Qu'est-ce que ça veut dire réaliser les objectifs de l'agenda 2030? Qu'est-ce que c'est que cet agenda 2030? Eh bien, sous ce nom, on a résumé un certain nombre de réalisations, de changements dans notre façon de vivre, de produire de l'énergie, etc., qui devrait être faite en 2030. Apparemment, on prend du retard. Mais avec cet emploi du mot agenda, on retrouve le sens d'origine du terme. Agenda, c'est un terme de la langue latine qu'on a emprunté tel quel en français. C'est une forme verbale d'ailleurs qu'on appelle le gérondif et qui a plusieurs significations. Et ici, on la retrouve cette forme dans le verbe aguerrer qui veut dire faire. Agenda, c'est ou bien les choses qui sont sur le point d'être faites, ou bien les choses qui doivent être faites. Ça, c'est le sens du mot latin. Donc, 2 significations. Bien sûr, c'est la deuxième qu'on retrouve ici, ce qui doit être fait. Seulement, ce mot agenda, il a encore plusieurs sens en français. Un agenda, qu'est-ce que c'est au départ? C'est un carnet hein, qui divise le temps en semaines, en jours, en heures, comme une représentation du temps sur laquelle on pourra inscrire tout ce qu'on prévoit de faire. L'agenda, c'est souvent prévisionnel. Et comme l'objet est devenu très usuel, son nom a pris un sens beaucoup plus large. L'agenda de quelqu'un, qu'est-ce que c'est? C'est son emploi du temps. Et si on dit qu'il a un agenda très chargé, c'est qu'il n'a pas une minute à lui. Et le terme apparaît de plus en plus dans une langue assez médiatique, assez politique. On parle des gens importants, de ceux qui ont le pouvoir, et leur agenda renvoie à l'organisation de leur temps, mais aussi à l'organisation de leur ordre du jour.
C'était l'expression de la semaine d'Yvan Amar. Merci Yvan, c'est la fin de ce journal en français facile. Il est 22h10 ici à Paris, prochain rendez-vous avec l'actualité dans un peu moins d'une heure.